Nous lirons dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 1er. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin ? Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père. Et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen.
Amen.
C'était là des paroles et qui avait pour objet d'instruire, bien entendu, toutes les paroles du Seigneur instruisent, mais aussi de servir de transition entre cette période tout à fait particulière qui était celle de la présence visible du Seigneur Jésus sur la terre, et la période qui allait suivre, qui allait venir, après la croix, après la résurrection, après la glorification de Christ, la période qui allait venir à la Pentecôte, celle de l'Église. Il y avait tout de même un lien entre ces deux périodes, un lien entre le temps des évangiles où le Seigneur est là, qui parle, qui est vu, dont Jean-Baptiste témoigne, et qui a ses 12, et qui vit journellement, à chaque instant, aux côtés de ses apôtres. Et puis la période de l'Église, il y a un lien, mais il y a aussi une grande différence. Il y a une grande différence parce que il était aisé d'être aux côtés d'un maître que l'on voyait. L'apôtre Pierre nous dit bien, ce Seigneur Jésus en qui vous croyez sans l'avoir vu. Mais eux l'avaient vu, eux le voyaient tous les jours, et ils savaient qu'il était un Seigneur. Évidemment, ce qu'ils avaient dans le cœur de connaissance du Seigneur Jésus était encore bien imparfait, bien sommaire, c'était en train de se former dans leur cœur. Mais ils avaient un Seigneur, un grand Seigneur, dont ils avaient vu les œuvres, dont ils avaient entendu les paroles souvent trop élevé pour eux, incompréhensible encore, mais et qui, comme Pierre l'a dit, étaient les paroles de la vie éternelle. Ils avaient ce Seigneur-là. Et ils pouvaient encore, non pas croire en lui sans le voir, mais leur foi, en somme, était considérablement aidée par la vue qu'ils avaient du Seigneur Jésus. Or, le temps de l'Église va être celui de la foi, sans la vue, sans aucune vue. Il va falloir croire à ce Seigneur que l'on n'a pas vu, et il va falloir croire sur la foi des témoignages de la Sainte Écriture, il va falloir croire avec l'information du Saint-Esprit qui va se faire grande, d'autant plus grande que la foi sera elle-même plus grande. Le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité, dans toute la révélation de Dieu. C'est lui qui révèle, c'est lui qui ouvre, c'est lui qui montre. C'est un temps nouveau que celui de l'Église. Nous ne connaissons plus le Seigneur selon la chair, dira Paul, mais nous le connaissons comme le Seigneur l'Esprit. Voilà, n'est-ce pas, la grande différence, bien qu'il y ait un lien entre la période des évangiles et le temps de l'Église. Et les paroles que nous avons lues faisaient transition de l'une à l'autre de ces périodes. Que votre cœur ne se trouble point. Il est certain que les apôtres étaient troublés puisque déjà le Seigneur leur disait « Je m'en vais au Père, je vous quitte, je m'en vais au Père ». Et cela, bien sûr, provoquait dans leur cœur humain des déchirements. Pour eux, ce qu'ils auraient voulu, c'est maintenir la période présente, c'est maintenir la présence visible du Seigneur. Ils n'ont concevaient même pas d'autres. Ils ne concevaient pas d'être ses apôtres, ses disciples autrement que auprès de lui, le voyant, le touchant, comme dit Jean. Et alors là, les voici, il faut qu'ils viennent à une autre conception, à une autre vue, celle de l'Église qui va avoir toujours le même chef, le même maître. Dieu va le donner comme chef de l'Église, mais on ne le verra pas, mais il sera le Seigneur l'Esprit, et pourtant il sera là, et pourtant il travaillera. Il fallait se faire à cela. Il fallait rompre, il fallait un déchirement des sentiments humains. Même à l'égard du Seigneur, les attachements humains étaient appelés à être déchirés, supprimés. C'est pas ces attachements-là qu'il fallait. Ils avaient été l'amorce. Ils avaient été nécessaires pour les quelques 3 ans de ministère du Seigneur. Mais maintenant, il en fallait d'autres. Et c'était un grand passage. Un très grand passage. On peut presque dire que ce passage de la période des évangiles à la période de l'Église est presque aussi bouleversant que le passage de notre existence, nous, actuels ici, comme membres de l'Église, comme disciples du Seigneur, assemblés en des assemblées locales, notre passage au temps de la gloire de l'Église, de l'épouse. C'est presque cela, voyez-vous. Il y a presque un bouleversement aussi grand, aussi extraordinaire que cela. Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu et croyez en moi, notre texte, comme cela arrive quelquefois, je vous l'ai déjà signalé, omet ici un mot. C'est toujours dommage. On se demande pourquoi, second, j'espère que tout cela sera rectifié dans la nouvelle traduction. On me parlait hier de cette nouvelle traduction, on me demandait pourquoi. Eh bien, il y a bien des retouches à faire à la traduction second. Textuellement, il y a ici, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Textuellement, c'est même un peu différent. c'est ceci textuellement dans le grec, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. C'est ça le texte tel, vous voyez, n'est-ce pas, comme second ne traduit pas exactement ici. Croyez en Dieu, c'est donc, il en fait un commandement, croyez en Dieu. Mais il croyait en Dieu. Et c'est pas croyez en Dieu, c'est pas un impératif, c'est au contraire une constatation, vous croyez en Dieu, n'est-ce pas? Eh bien alors, il faut que vous croyez aussi en moi. Voilà le sens. N'oubliez pas cette idée que je vous ai tout de suite à l'instant livrée, n'est-ce pas, que ces paroles sont des paroles de transition entre deux époques tellement différentes l'une de l'autre, quoique ayant entre elles un lien. Ces apôtres avaient foi en Dieu. Ils avaient foi en Dieu parce qu'ils étaient des Juifs, parce que leur foi en Dieu n'avait pu même que se réveiller au contact du Seigneur Jésus. Donc, ils croyaient en Dieu, c'est certain. Mais leur foi en Dieu devait se revêtir d'une nouvelle force, d'une vie nouvelle. Leur foi en Dieu n'était pas ce qui convenait pour la période dans laquelle ils allaient entrer, celle de l'Église. Ça n'était pas encore cette foi-là. Ils n'avaient pas la foi qu'il faut avoir dans l'Église. Ils ne l'avaient pas. Ils avaient la foi des Israélites, mais ils n'avaient pas la foi de l'Église. Il fallait se revêtir d'une nouvelle vie, d'une nouvelle force, par la foi en lui, Jésus, la foi en lui. Bien sûr, il croyait, si vous voulez, en ce sens qu'il l'avait vu, il le voyait, savait qu'il était là, qu'il existait. Il n'avait pas besoin de démonstration, il n'avait pas besoin de se tourmenter. Mais s'il le voyait, s'ils étaient sûrs de sa présence, ils n'avaient pas encore exercé une véritable foi en lui, leur Seigneur. Ils n'avaient pas encore exercé, le contexte nous le montre bien, une véritable foi. Car il s'agissait de croire en lui, et croire dans la Bible, ce n'est pas seulement accepter des énoncés, des énonciations, accepter une parole, accepter une doctrine, accepter ce que la parole pour elle-même, pour ce qu'elle dit, n'est-ce pas? Ce n'est pas cela seulement, pas du tout. Croire le Seigneur dans le chapitre 6 de Jean montre que c'est déjà manger sa chair et boire son sang. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Comme il n'y a pas deux chemins pour aller à la vie éternelle, c'est que croire qui mène à la vie éternelle et manger et boire qui mène à la vie éternelle sont une seule et même chose. Croire, c'est donc manger, c'est saisir, c'est absorber le Seigneur Jésus, c'est le manger avec toute son œuvre, avec son sacrifice, le fruit de son sacrifice, le fruit de sa crucifixion, le fruit de sa résurrection, le fruit de sa glorification qui allait venir. C'était tout cela en prendre le fruit, c'est cela croire. Croire, donc, c'est s'unir à Dieu par Christ qui en fournit le moyen, car nous ne pouvons pas être unis à Dieu autrement que par lui. C'est s'unir à Dieu, c'est agir selon la volonté de Dieu. Croire, c'est agir. Jacques le démontre très bien, et Paul n'est pas du tout contre cela, bien qu'il soutienne une thèse d'une autre nature. La foi, d'ailleurs, mes amis, ne s'adresse qu'à Dieu. Et si Christ la demande, lui aussi pour moi, vous croyez en Dieu, alors croyez aussi en moi. S'il demande la foi pour lui, c'est qu'il est Dieu. La foi telle que elle est présentée dans les Écritures, n'est-ce pas? La foi, je vous le dis bien, n'est-ce pas? C'est venir à Dieu, c'est s'unir à Dieu, c'est saisir la volonté de Dieu pour la faire, c'est ça, croire. Quelqu'un qui dit « je crois » et qui ne fait pas la volonté de Dieu, il ment. Il ment. Il n'est pas un croyant. Il a une croyance. Il a une, il accepte une information qui vient de la Bible. Mais ce n'est pas un homme de foi. N'est-ce pas? Entendons-nous bien là-dessus. Alors, là, ici, nous avons déjà quelque chose qui apparaît. C'est la divinité du Seigneur Jésus qui devra être une chose reçue, connue dans l'Église. Pour l'instant, ils étaient très au vague quant à leur maître. Il était un rabbi, un maître, un prophète venu de Dieu. Il était le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais qu'est-ce que tout cela était au fond? Ils n'avaient pas, n'est-ce pas, bien sûr, et ils avaient eu raison, et Dieu les en avait exemptés, de raisonner toutes ces choses-là. Ils avaient eu raison. Mais enfin, il n'y avait pas en eux, n'est-ce pas, vraiment de profonde conviction d'établie quant à la nature de ce maître qu'ils avaient devant eux. Eh bien maintenant, dans l'Église, n'est-ce pas, la transition se fait. Il va falloir croire en Jésus-Christ et croire, c'est s'unir par un sens spirituel dont le cœur humain est capable. Dieu l'a rendu capable, Dieu donne la foi en ce sens qu'il donne la possibilité de la foi, comme il nous donne des yeux, comme il nous donne des oreilles. Mais c'est nous qui avons la responsabilité de l'usage des yeux et de l'usage des oreilles. Dieu nous les a donnés, Dieu nous a donné la vue, Dieu nous a donné l'ouïe. Mais c'est nous qui en faisons usage, n'est-ce pas? Eh bien la foi c'est exactement ça. Ils ont des oreilles et ils n'entendent pas, ils ont des yeux, ils ne voient pas, n'est-ce pas? Voyez-vous, ça veut dire en réalité, n'est-ce pas? Voyez-vous, ils n'exercent pas la foi. Ils pourraient l'exercer, ils ne l'exercent pas. Eh bien, exercer la foi à l'adresse du Seigneur Jésus, du Christ, et encore pour aller à Dieu, n'est-ce pas? Cela déjà montre que le Christ est Dieu. Croire dans croire, il y a aussi toute la piété due à Dieu, il y a la crainte de Dieu, et par conséquent, il y a l'adoration de Dieu. Et s'il faut adorer, croire en Christ, c'est-à-dire l'adorer lui aussi, Christ, on ne peut adorer que Dieu seul. Et par conséquent, n'est-ce pas, ce serait une imposture, mes amis, ces paroles seraient une grave imposture. Si Christ n'avait pas été d'essence divine. Et peut-on se passer de cela? Vous allez voir que non. Il faut absolument que la foi nous fasse pénétrer au cœur même de la divinité dans la personne de Jésus. C'est ça l'Église, ce sera ça le chemin, la vérité, la vie, le chemin du salut. Ce sera cela. Lorsqu'il s'agit de la divinité du Seigneur Jésus, il y a eu à toute époque, dès le commencement de l'Église, dans tous les siècles, et à notre époque aussi, des gens qui viendront contester, qui viendront modifier, qui viendront apporter toutes sortes de subtilités. Mais ces gens-là, que font-ils en réalité? Ce sont des gens qui s'attachent à la lettre et qui voudraient, dans l'Écriture, et qu'il y ait des affirmations claires, nettes, précises, c'est-à-dire littérales à leur gré. Littérales. Grec maître, Jésus-Christ est Dieu. Et ça, il y a des affirmations dans ce sens. Mais, n'est-ce pas, ils voudraient cela. Et voyez-vous, et il voudrait d'autres affirmations du même ordre, alors que l'Écriture ne les donne pas. Et si elle ne les donne pas là, elle ne les donne pas non plus sur bien d'autres sujets pourtant indispensables à connaître. Et pourquoi? Parce qu'elle laisse la foi entrer, pénétrer dans le mystère. lumière de Christ. La foi doit faire son avancée, doit faire sa poussée, son chemin jusqu'au cœur du mystère de Christ. Et ces gens qui remettent en cause la divinité de Jésus, ce sont des gens qui s'adressent, qui s'attachent à la lettre, qui voudraient une lettre, et qui par conséquent interposent toujours cette raison humaine, n'est-ce pas, à la révélation de Dieu. Ils voudraient la lettre, et ils ont oublié ceci, c'est que la lettre tue, mais que seul l'esprit vivifie. Et comme nous avons pu le montrer, il y a bien des jours déjà, nous avons pu le montrer dans des études que nous avons faites, la divinité de Jésus est apparente partout. Elle est apparente partout. Eh bien, cette divinité de Jésus, il faut la trouver en se laissant guider par la foi, par l'Esprit de Dieu, par conséquent, la trouver en toute chose. Ici, nous l'avons, n'est-ce pas, d'une façon absolument magnifique, merveilleuse, je ne dirais pas indubitable, parce que ça semblerait vouloir, n'est-ce pas, contrebalancer la possibilité d'un doute. Il n'y a pas de possibilité de doute. Ici, la divinité est là, et attention, l'Église devra saisir par la foi cette divinité du Seigneur Jésus, sans quoi il n'y aura rien de fait. Rien, absolument rien. Ce serait, je le répète, une imposture que ces paroles qui demandent la foi, la même foi que celle qui est adressée à Dieu, celle qui est présentée pour à la recherche de Dieu, la même foi en Jésus-Christ, et mieux, c'est que la foi pour atteindre Dieu, pour obtenir la révélation de Dieu le Père, devra cette fois s'attacher au Christ, et c'est dans le Christ que se découvrira, que s'ouvrira la révélation du Père. Ces paroles seraient une imposture. Et alors, si nous avions imposture dans les paroles du Christ, nous aurions ici, nous l'aurions à d'autres endroits, il vaudrait mieux fermer le livre et puis s'en aller. S'il y avait imposture. Mais il n'y a pas imposture, il y a sublime révélation. Il y a une révélation que nous devons recevoir à genoux comme des adorateurs et ne point en discuter et ne point laisser permettre à nos cœurs de poser la plus petite question. L'adoration évince, écarte toute question posée. Oh, chers amis, comme je voudrais que vous appreniez à ne plus poser des questions qui en réalité logent, contiennent un doute. Il y a un œuf de basilic, souvent dans les questions, cet œuf de basilic dont parle l'Écriture, et c'est un petit serpent qui est là, c'est un doute. Chers amis, ne posez pas, recevez, croyez ce que la Bible vous dit, demandez le Saint-Esprit qui va vous ouvrir toute la vérité, ayez des cœurs ouverts. Oh, chers amis, si vous mettiez la plus petite chose en doute devant le Seigneur, tel que l'avaient les apôtres visibles devant vous, vous entendriez le Seigneur vous dire « Race, incrédule et perverse, jusqu'à quand vous supporterai-je ? » Voilà ce que le Seigneur vous dirait. Gens de peu de foi. Et le Seigneur de nous parler ici de la maison du Père. Il nous dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. C'est-à-dire, le Seigneur est la vérité. Toute parole qui sort de sa bouche est une parole de vérité. Il y a longtemps que Jésus-Christ aurait été écrasé, foudroyé, chers amis, avec les paroles qu'il a prononcées, s'il n'avait pas dit toute la vérité. Mais il ne pouvait pas dire autre chose que la vérité. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je n'aurais pas pu manquer de vous le dire. S'il n'y avait pas eu de demeure au ciel, s'il n'y avait pas eu d'espérance, s'il n'y avait pas eu de foi pouvant s'élancer jusque vers la cité du Très-Haut, je vous l'aurais dit. Mais si je ne vous l'ai pas dit, au contraire, je vous dis qu'il y a qu'il y a cela, qu'il y a une maison du Père Céleste, de votre Père Céleste, il y a une maison dans les cieux, et qu'il y a de la place là, et que je vais vous préparer une place, cela je vous le dis. Si ça avait été le contraire, je vous l'aurais dit, mais du fait que je vous dis qu'il y a, alors voici pour vous un fondement inébranlable, le fondement inébranlable de votre espérance, parce que je vous l'ai dit, parce que c'est sorti de la bouche du Seigneur Jésus. Mes amis, ça ne nous suffit pas, nous chrétiens, ça. C'est pas l'Église, ça. Ce n'est pas l'Église que de recueillir les paroles du Seigneur Jésus telles qu'elles sont, sans les soumettre le moins, pas du tout, n'est-ce pas, pas les soumettre du tout, au raisonnement, à cette analyse, cet esprit d'analyse de l'homme, qui est la chair, tout simplement. C'est pas fait pour la chair, ces paroles-là. C'est fait pour le cœur. C'est fait pour l'esprit. Je vais vous préparer une place. Il y a plusieurs demeures dans la maison du Père. Nous avons rencontré déjà cela il y a quelque temps. Je ne m'y arrêterai pas. Et il y a dans le ciel, avons-nous dit, de la place. Il y a de la place. Je vais vous préparer une place. Il y a plusieurs demeures, beaucoup de demeures, plusieurs en grec ça veut dire une foule, quantité, grande quantité de demeures. Alors, je vais vous préparer une place. Jésus prépare une place. Pourquoi prépare-t-il une place? Et comment prépare-t-il une place? Eh bien, c'est, nous n'aurions pas de place, même s'il y avait quantité de demeures, n'est-ce pas, libre encore, vide. Eh bien, il n'y aurait pas pour nous accès à ces demeures. Il faut qu'il fasse accès. C'est lui qui va faire accès. Car nous sommes des hommes pécheurs. Car nous portons une chair, un corps, ou plutôt, n'est-ce pas, notre individualité se trouve dans un corps qui ne peut pas hériter, lui, le royaume de Dieu. Il ne peut pas aller là-haut, ce corps. Alors, il faut que la rédemption soit portée par le Christ. Le sang soit porté dans la cité de Dieu où il est. Dans la cité de Dieu, il y a Jésus et il y a le sang qui parle mieux que celui d'Abel. Le sang est là. C'est-à-dire qu'il y a la puissance de la rédemption là-bas auprès de Dieu. Dieu peut prendre, puiser dans cette puissance de rédemption qui lui a été apportée par le Fils. Il peut prendre, il peut puiser, et alors il peut purifier, il peut rendre parfait des hommes de foi, et il peut les ressusciter et les amener en sa présence. Il faut cela pour préparer une place, et cette place, eh bien, le Seigneur Jésus la prépare par la rédemption, avec la rédemption qu'il a apportée au Père. Et puis, il a tout pouvoir. Il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Pourquoi a-t-il tout pouvoir? Justement parce que l'œuvre qu'il a faite sur la terre, il faut la continuer dans le ciel, et il faut dans le ciel préparer la place des élus de la terre. N'est-ce pas? Il faut préparer cette place, leur admission, dans la cité de Dieu. Maintenant, quant à l'idée de loger, quant à l'idée d'habiter, laissons-la, si nous sommes admis dans la cité de Dieu, nous y trouverons place, n'ayez crainte. La place sera préparée et elle sera suffisante. Et le Seigneur dénonçait une règle, qui est magnifique, une règle qu'il faut que nous connaissions. Là où je suis, il faut que vous y soyez aussi, n'est-ce pas? Voilà cette règle. Je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et nous savons que dans la prière sacerdotale, Jean 17, le Seigneur va mettre ça, n'est-ce pas? C'est une prière constructive, c'est une prière programme, pourrait-on dire, elle est rétrospective dans un sens, elle est une prière programme, c'est le programme, c'est l'énonciation de la grande œuvre, n'est-ce pas, dans toute sa simplicité. Alors, il faut que là où je suis, je veux, dit le Seigneur Jésus, et je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés, Père, y soient aussi. Bah, pourquoi dit-il je veux ? Parce que il exprime une volonté du Père, qui par conséquent est aussi la sienne, et il peut dire je veux. Vous vous rendez compte, n'est-ce pas, si un homme, quel que soit cet homme, pouvait dire devant Dieu, je veux. Vous voyez, n'est-ce pas, comme il faut qu'à tout moment la divinité soit partagée par le Seigneur Jésus. Je veux, Père. Pourquoi je veux? Parce que c'est une volonté que nous partageons tous les deux. Tu as cette volonté, alors je peux dire je veux. Comme je peux dire je suis la résurrection et la vie. Comme je peux dire celui qui croit en moi, je le ressusciterai au dernier jour. Je. Seigneur peut dire je. Mais ce serait encore une imposture, ça. Une imposture terrible. C'est absolument impossible de la part de n'importe quelle créature. Jamais un ange ne peut parler comme cela. Un ange parle comme ça dans la limite de la mission qui lui est impartie quand il vient comme l'ange de l'Éternel, car l'ange de l'Éternel est quelquefois un ange véritable, dans lequel l'Éternel, l'Esprit de l'Éternel se met, n'est-ce pas, et vient s'exprimer. On peut dire que c'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Bien sûr, la parole de Dieu est agissante et la parole de Dieu accomplit la volonté de Dieu. Eh bien, la règle c'est cela. Il faut qu'il y ait communauté de lieux d'habitation dans l'éternité, n'est-ce pas? Communauté de lieux d'habitation, mais avant tout il faut qu'il y ait communauté de nature. Communauté de nature pour avoir communauté d'habitation. Il faut donc, n'est-ce pas, que les élus, les rachetés de Christ, fassent un revêtement, obtiennent un revêtement, et soient, qu'ils soient à l'image, n'est-ce pas, qu'ils soient portés, transformés à l'image de Christ pour avoir communauté de nature avec lui, n'est-ce pas, du côté humain, cela sera possible, on pourra aller par la foi de plein pied, l'homme pourra aller de plein pied dans la personne de Jésus, par le côté humain de cette personne, et il arrivera là, pour participer à la nature divine, communauté de nature, et il y aura communauté de lieu d'habitation. C'est ainsi que l'Église sera l'épouse du Christ. Thomas, voici que Thomas prend la parole. Et Thomas, lui, il dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Il pense, lui, que, en sachant, s'il savait vraiment où le Seigneur s'en va, il en trouverait le chemin, lui. Voilà son idée. Voyez-vous, comme nous avons encore là, chez les apôtres, et c'est peut-être plus évident chez Thomas que chez les autres, mais les autres étaient encore un petit peu là. Alors, si nous savions où tu vas, nous irions nous aussi. Si on nous disait, par exemple, maintenant, eh bien, nous allons à Paris. Bon, ben, alors, moi aussi, j'y vais, j'ai pas besoin, j'y vais, je sais le chemin, je vais prendre le chemin, n'est-ce pas? Voyez comment il raisonnait, n'est-ce pas, en son cœur. Nous le savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Mais si nous savions, si tu nous disais seulement où tu vas, ah ben, nous en saurions le chemin. Et alors, le Seigneur va renverser complètement cette pensée. Il va complètement la renverser. Cette pensée, c'était une pensée, en somme, de rationalisme. Thomas est un rationaliste avant l'heure, avant l'ouverture de l'Église. C'est un rationaliste. C'est un homme de foi, évidemment, de foi encore charnelle. Les pensées charnelles sont là, en lui. Et Jésus va répondre. Il va lui dire, c'est par le chemin, mon ami. C'est pas le but qu'il faut voir en premier, c'est le chemin qu'il faut voir en premier. Et c'est par le chemin que tu vas apprendre à découvrir le but, à connaître le but. Il faut prendre le chemin d'abord. Ah,
Moi, je croyais qu'il fallait savoir le but, puis alors le chemin, on le trouve. Non, pas du tout, n'est-ce pas? C'est le chemin qu'il faut que tu prennes. Tu prends le chemin, tu t'engages dans le chemin. Et puis là, tu apprendras, en cours de chemin, à connaître le but. Et nous pouvons dire que aller au Père, n'est-ce pas, je suis le chemin, la vérité, la vie, cette déclaration est quelque chose de magnifique, et elle se termine par une négation, nul ne vient au Père que par moi, personne n'ira au Père que par ce chemin-là, que par moi, personne ne pourra aller au Père. Or, nous l'avons dit plusieurs fois, aller au Père, c'est le salut. Il n'y a pas de salut si on ne va pas au Père. Il faut y aller. Il faut qu'un jour, même, je précise les choses, Jésus confesse ses élus. Il les confessera un par un. Oh, pas seulement en disant, voilà, cette foule-là, n'est-ce pas, avec des robes blanches et des palmes à la main, ça, c'est mon église, c'est les rachetés. Non. Un tel. Vous direz, ce sera long, on a le temps. Il confessera. Il les confessera un par un, parce que devant Dieu, une personne humaine, une personne rachetée, est une personne. Et elle est redevenue à l'image de Dieu, et Dieu ne regardera pas une foule, Dieu regardera personne par personne, chaque personne en particulier, comme nous avons été sauvés chacun en particulier, par le sacrifice du Seigneur, comme si ce sacrifice était pour seulement chacun de nous. Alors, il faudra aller au Père, et il faudra, bien entendu, comparaître devant Dieu. Et cette comparution, eh bien, c'est tout simple, c'est le moment des noces de l'agneau, c'est le moment des noces qu'un père avait faites à son fils. Les noces que le Père fait à son Fils, les voilà, les noces de l'agneau. Alors, nous l'avons dit souvent, à ce grand festin, il y aura, n'est-ce pas, le Seigneur. Mais attention, tous ceux qui y seront conviés, seront revêtus de la robe des noces, non seulement de la robe de justice, bien sûr, mais ils seront aussi des ressuscités ou des transmués, enfin ceux qui auront revêtu le corps céleste, le corps spirituel. Il n'y a que comme cela que Dieu peut connaître les rachetés de son Fils. Mais bien sûr, c'est Dieu a un grand désir de les voir, de les connaître, de les retrouver à ce festin qu'il va présider. Je dis présider, c'est peut-être une pensée un peu, mais ça n'a pas d'importance. Il y a un festin, quelqu'un qui préside, n'est-ce pas? Un roi fit des noces à son fils. Eh bien, voilà, n'est-ce pas, le grand roi qui fait des noces à son fils. Et là, chacun va comparaître Abraham, Isaac, Jacob. Et s'il faut tous les nommer, mais vous voyez que ces parrains, nous serons à table, ils seront à table avec Abraham, Isaac, Jacob. Et ne croyez pas qu'ils soient privilégiés, ceux-là, n'est-ce pas? Il y en aura d'autres, n'est-ce pas? Tous seront vus personnellement dans cette grande rencontre. Et cela, c'est l'aboutissement de la réconciliation de Dieu avec les rachetés du Seigneur. S'il y a réconciliation, eh bien, il faut qu'on se voit. Il faut qu'on se rencontre, n'est-ce pas? Si, par exemple, vous étiez réconcilié avec quelqu'un et que ce quelqu'un refuse de vous voir, alors vous diriez, oui, on est bien réconcilié, mais de loin. De loin, n'est-ce pas? Mais si on est réconcilié, on voudrait bien se voir, on voudrait bien se serrer la main, on voudrait bien échanger un regard, échanger un sourire, échanger quelques paroles, n'est-ce pas? Se rencontrer. Eh bien, il faut aller au Père. Nous sommes réconciliés. Si Christ est réconcilié avec nous, c'est pour que nous le voyons face à face. Et chers amis, n'ôtez jamais rien de cela. Ne raisonnez pas cela non plus, n'est-ce pas? Tous ceux qui veulent mettre le bout du doigt de leur raisonnement là-dedans, faussent tout, n'est-ce pas? Recevons en champ de foi tout ce que l'Écriture nous apprend. Vous ne trouvez pas que tout cela, n'est-ce pas, nous a été enseigné, tout cela est arrivé pour que nous comprenions. Nous sommes, nous, n'est-ce pas, dans la réconciliation, cette réconciliation si chère
si chèrement acquise, si chère à nos cœurs, réconciliation avec le Père Céleste, avec notre Père. Et il faut alors que nous allions à lui. Il faut que la réconciliation ait son plein effet et que nous comparaissions devant lui, chers amis. On ne donne pas, qu'est-ce que vous voulez, c'est malheureux, assez de valeur à ces choses-là, n'est-ce pas? Il faut en parler de ces choses-là. C'est très bon d'exhorter, nous avons beaucoup de textes dans la Bible qui nous permettent d'exhorter, on peut exhorter. Moi, je le fais aussi, j'exhorte beaucoup l'Église. Mais, attention, il ne faut pas exhorter seulement l'Église, il faut l'instruire. Il faut qu'elle connaisse les grandes choses, les grandes lignes de la révélation, parce que exhorter, n'est-ce pas, quelqu'un qui ne connaît pas suffisamment, c'est faire un travail mauvais, n'est-ce pas? Ce serait exhorter, par exemple, un ouvrier, dire, mon ami, tu sais, il faut que tu travailles bien, que tu fasses le travail avec attention, application, avec finesse, avec persévérance, etc. Et puis, l'ouvrier ne saurait pas travailler, ne saurait pas faire le travail. Alors, à quoi servirait de l'exhorter, n'est-ce pas, à bien le faire? Il faut exhorter un ouvrier qui sait faire le travail, qui sait ce qu'il va faire, n'est-ce pas? Voyez-vous? Eh bien là, n'est-ce pas, il faut absolument que l'exhortation soit donnée à des chrétiens qui savent et qui ont reçu la révélation de Dieu. Et elle est dans toutes ses pages. Nous pouvons la découvrir tout au long des pages de la Bible, et surtout dans ce merveilleux évangile, quatrième évangile, l'évangile de Jean. Eh bien, je vais m'arrêter, l'heure étant venue. Je vais m'arrêter ici, mais non sans vous montrer ceci encore, c'est que Jésus est comme l'Épître aux Hébreux nous le montre aussi en son chapitre 1er, son verset 3, il est source de l'existence et c'est lui qui va faire sa demeure dans l'âme des rachetés. Il va faire sa demeure. Ce que nous avons lu dans le chapitre 14 de Jean se continue. Il y a un lien de développement, un lien de logique spirituelle dans tous ces chapitres. Cela se continue au chapitre 15, au chapitre 16. Et là, n'est-ce pas, le Seigneur va dire, eh bien, mon Père et moi, nous ferons notre demeure en lui. En qui? En celui qui m'aime. En celui qui m'aime, nous ferons notre demeure. Comment voudriez-vous qu'un homme si grand, si saint, si spécial soit-il, vienne faire sa demeure dans le cœur, dans les âmes de tous les autres hommes sauvés? Comment voudriez-vous cela? N'est-ce pas? Si Christ n'était pas lui-même Dieu, il ne pourrait pas être esprit. Voilà encore cela, il ne pourrait pas être esprit. Il est esprit, le Père est lui. Mon Père et moi, nous habiterons chez lui, nous ferons notre demeure chez lui. Et par conséquent, la demeure du Père et du Fils, en esprit, c'est la Trinité reconstituée. Chaque fois qu'il y a une âme qui aime, une âme sauvée, la Trinité vient en elle. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit est en elle. Ce sont là les grands mystères magnifiques qu'il faut connaître et conserver par la foi dans son cœur avec amour, pur comme ils nous sont révélés, tels qu'ils nous sont révélés, chers amis. Alors, adorons Dieu et ne discutons pas, ne discutez jamais, ne posez pas de questions, chers amis. Ces choses-là sont trop belles, trop grandes, au-dessus de la raison humaine, mais elles sont révélées pour que nous vivions, nous aussi, car là, où est le Seigneur, là est la vie et l'éternité. Amen.